écoutez, donc je suis donc Serge Mahé, donc je travaille au CNES, Centre national des études spatiales. Donc je suis à la direction du transport spatial, donc la DTS. Et dans cette direction, il y a une sous-direction qui est la sous-direction développement sol, donc des installations sol. Et donc moi je suis donc le chef de service du service Guyane, donc à la sous-direction développement sol, la SDS. Et il y a plusieurs services, dont le service qui est installé en Guyane. Donc, la sous-direction développement sol, c'est celle qui a installé toutes les bases de lancement depuis 50 ans sur le site. Voilà, donc je
Alors,
suis chef de service et en parallèle aussi, je suis le responsable de la qualification technique des moyens sols Guyane Rennes 6 aussi. Voilà.
chose importante. Alors, quel a été votre parcours d'étudiant?
Donc, après le bac, j'ai fait un IUT donc de génie électronique et informatique industrielle. À l'issue de l'IUT, donc j'ai intégré une école d'ingé dans Polytechnique Montpellier, donc en microélectronique et automatisme. Et à l'issue, donc j'ai intégré une année de supplémentaire en réseau et télécom à l'ENSET à Toulouse.
Alors, quel a été votre parcours professionnel?
Donc, j'ai démarré donc à la PAV, donc dans le contrôle technique et dans les réseaux informatiques. Ensuite, j'ai intégré le CNES en 2007. Donc en 2007, donc j'étais donc à la PAV, au Centre spatial guyanais depuis 98. En 2007, donc j'ai intégré le CNES en tant que donc chef enfin, responsable. Des suivis des travaux pour tous les aspects bande contrôle et réseau et télécom en Guyane. Donc en 2007, à ce titre, donc j'ai suivi donc en tant que chargé d'affaires des réseaux donc toute l'installation du pad tir Soyouz. Et j'ai travaillé sur le pad tir Vega aussi. Et après donc là depuis 2007, en 2010 donc je suis devenu adjoint au chef de service qui existait donc Frédéric Mignoz qui est devenu sous-directeur actuellement. Et donc depuis 2010, donc j'étais donc son adjoint. Et en plus, donc j'assurais toujours le rôle d'interface avec tous les moyens pour les projets liés au suivi du lanceur. Et en parallèle, donc depuis 2018, donc j'ai pris le poste en plus de ça de responsable de la qualification technique de tous les moyens sur le Guyana N6, enfin de compte tous les moyens qui vont permettre d'intégrer le lanceur et d'assurer le lancement et le suivi du lanceur pendant sa trajectoire. Et donc ça jusqu'en 2021. Et en 2021, donc je suis devenu chef de service. Frédéric Munoz est parti pour devenir sous-directeur. Et par un jeu de chaises musicales, je suis devenu chef du service de l'équipe Guyane actuellement. Depuis 2021.
Très bien. Avez-vous une rencontre particulière durant votre parcours d'étudiant ou professionnel qui vous a influencé pour vous orienter sur une carrière liée au spatial?
Tout à fait. Donc, effectivement, une rencontre importante, je dirais, à l'issue de mon parcours, enfin, durant mon parcours d'étudiant, j'ai été en contact avec Jean-Pierre Rosval, qui était le premier DDO. Directeur des opérations sur le premier lancement Ariane 4, le premier lancement Ariane en 1979, le 24 décembre 1979. Donc se trouve que c'est l'oncle de mon épouse. On a pris contact comme ça et donc c'est lui qui m'a reçu chez lui, qui m'a expliqué un peu ce qu'il faisait à cette époque-là. C'était en 91, il était sur le programme Hermès, le programme Hermès donc de la navette spatiale qui devait partir sur Ariane 5 et qui a été abandonné par la suite. Et donc, il était responsable, directeur du projet au CNES. Et donc, il m'a reçu chez lui, donc il m'a expliqué un peu ce sur quoi il travaillait. Donc, moi qui étais déjà bien attiré par le monde de l'aérospatial et du spatial hein, depuis longtemps, ben là, donc, il m'a expliqué un peu tout ce qui se passait en Guyane. Et donc, c'est un peu ce qui m'a poussé aussi à faire donc mon service militaire, enfin à l'époque il y avait le service militaire encore, hein, de faire mon service militaire en tant que volontaire de la technique au Centre spatial guyanais en 93-94. Et de là j'ai pris le virus du spatial et de la Guyane. Et donc après ce qui m'a permis après quand je suis rentré de ce service, je dirais intégré en entreprise, sur le centre spatial, de pouvoir après, quelques années après, repostuler pour retourner en Guyane, travailler dans le spatial. Et après, voilà, à partir de depuis 98, donc je suis en Guyane depuis 98, 25 ans quasiment.
Alors, voilà. Pouvez-vous nous présenter le ELA, le ELA-4 d'Ariane 6?
Donc, l'ensemble de lancement, donc ELA-4, on a beaucoup d'acronymes au CNES, hein, donc c'est pour ça que je vais essayer. Il faut m'interrompre si des fois j'en emploie trop. Donc, l'ensemble de lancement numéro 4 d'Ariane 6, donc, qui est situé donc, je dirais, au nord en direction de la ville de Sinnamary, donc sur la route de l'espace, après l'ensemble de lancement numéro 3 d'Ariane 5. Donc, c'est une zone de 170 hectares qui est constituée d'une, ce qu'on appelle la zone arrière et de la zone avant. La zone arrière, donc, c'est là où il y a, je dirais, tous les bureaux, où il y a tous les bâtiments techniques, donc tout ce qui est centrale d'eau glacée pour fournir de l'eau glacée au site, la partie énergie pour l'alimentation du site. Vous avez une station de potabilisation aussi pour avoir de l'eau potable sur le site. Il y a une zone aussi, une station de pompage où on pompe de l'eau dans un lac artificiel qui a servi pour le chantier et qui sert pour l'exploitation. Une zone arrière, avec un bâtiment qui s'appelle le bâtiment d'assemblage lanceur, le BAL, qui sert, comme son nom l'indique, à l'intégration du corps central d'Ariane 6. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la zone arrière. Et après, donc, il y a une route qui sort du bâtiment d'assemblage lanceur, qui sert à transporter le lanceur à l'horizontale. Et après, donc, 800 mètres plus loin, vous avez la zone de lancement. Zone de lancement qui est constituée d'un massif, qu'on appelle le massif ELA-4, d'un carnot qui permet d'évacuer les gaz lors du lancement, d'une table sur laquelle repose le lanceur avec un mât. Sur ce mât, donc, il y a des bras cryo et il y a les équipements qui permettent l'alimentation du lanceur. Et tout ça, couronné par un portique mobile qui permet de protéger le lanceur et de finaliser les dernières opérations d'intégration du lanceur, ce portique étant reculé quelques heures avant le lancement. Donc, c'est ce qu'on appelle la zone avant, donc la zone de lancement, le massif, le portique, et vous avez aussi des zones de stockage où on stocke donc les réservoirs de stockage mobiles qui arrivent pour l'hydrogène liquide et l'oxygène liquide qui sont les carburants pour le lanceur, avec un château d'eau aussi qui sert aussi de stockage d'eau pour les systèmes de déluge. Donc voilà, donc deux grosses zones, 170 hectares à peu près, qui a été défrichée. Donc, à peu près une douzaine d'hectares qui sont utilisés pour les bâtiments, pour les routes. Quoi. Tout le reste étant entouré par une clôture, bien sûr, tout ça étant sécurisé avec deux portails d'accès. Voilà en gros le ELA-4.
Alors, vous avez précisé un déplacement de la fusée à l'horizontale. Pourquoi, alors que les lanceurs précédents, notamment Ariane 5, sont déplacés à la verticale?
Donc là, c'est un retour d'expérience que l'on a eu de l'utilisation de Soyouz aussi, hein, donc du lanceur Soyouz qui est intégré à l'horizontale dans le MIC, donc le bâtiment. Donc là, l'intégration à l'horizontale permet d'avoir des bâtiments plus petits, donc avec une exploitation qui sont donc des bâtiments plus bas, avec un nombre d'opérations. Donc on a deux modules. En fin de compte, dans le bal, donc on fait l'assemblage du module inférieur, le LLPM, l'eau liquide pour plus de modules, et l'étage supérieur, l'ULPM, upper liquid propulsion module. Donc, ça permet de gagner du temps dans les opérations. C'est des bâtiments plus petits que le bâtiment d'assemblage final que vous avez sur Ariane 5, par exemple, qui est un bâtiment plus imposant. Et donc, toutes ces opérations sont regroupées dans un seul bâtiment qui s'appelle le BAL. Et donc, le fait d'intégrer à l'horizontale, donc, ça fait gagner donc, dans le transport et dans l'intégration du temps. Voilà.
Alors, quels sont les atouts majeurs par rapport au ELA-3, le fameux pas de tir d'Ariane 5, en sachant que le CSG témoigne d'une expertise hors norme vu le nombre de pas de tir présents des différents lanceurs? Vous avez notamment parlé de Soyouz, anciennement Soyouz, mais on a toute une histoire des différents lanceurs présents sur le CSJ.
Oui, effectivement. Donc, il faut savoir que la sous-direction sol, là, a une expertise. Donc, on en est au 9e pas de tir, quand même, ce qu'on appelle, hein, au 9e pas de tir. Donc, on a commencé il y a 50 ans avec les premières fusées Véronique. Donc, on a acquis effectivement une compétence par rapport à ça. Et donc, on fait du retour d'expérience un peu sur toutes les bases de lancement que l'on a fait. L'intérêt, un des intérêts importants et un des critères d'Ariane 6, c'est la réduction de coûts. Et donc, c'est dans l'exploitation et dans la conception. Donc là, comme je disais, sur Ariane 5, on a trois zones. Il y a le bâtiment d'intégration du lanceur, le bâtiment d'assemblage final et la zone de lancement. Donc, trois zones bien, bien différentes, avec chacune son utilité. Des transferts, donc une exploitation beaucoup plus importante, alors que nous, sur Ariane 6, il n'y a plus que deux zones. Donc, le bâtiment d'assemblage du lanceur et la zone de lancement. Donc, avec un portique. Donc, déjà, donc, on gagne en coût d'exploitation. En plus, donc, ça, c'est un des premiers points qui est important. On gagne en temps de campagne. Une campagne de lancement sur Ariane 5, entre l'arrivée du lanceur et le décollage, vous avez 32 jours à peu près. Alors que sur Ariane 6, nous arrivons à 15 jours. 15 jours donc, de campagne, donc un gain important par rapport à ça. Donc, on a des éléments qui arrivent. Donc, l'étage inférieur arrive des Mureaux en France. L'étage supérieur arrive de Brême. Et donc tous ces étages sont déjà pré-testés un maximum dans les pays respectifs, donc en Allemagne et en France. Et donc, on arrive à optimiser le nombre de contrôles et à diminuer le nombre de contrôles que l'on fera sur place lors de l'intégration au bal. Donc, c'est un début qui permet aussi, c'est une façon de pouvoir réduire ces campagnes. Donc, on gagne aussi par rapport à ça. Et le troisième point, c'est qu'on réutilise les moyens existants. Le centre de lancement qui va permettre de piloter le lancement est situé dans le centre de lancement numéro 3, ce qu'on appelle le CDL3, dans lequel il y a déjà le centre de lancement Ariane 5. Et donc, on réutilise des salles que l'on a réaménagées. Donc, on fait des gains aussi par rapport à ça. Et on utilise la synergie avec les moyens existants déjà d'Ariane 5. Et tout ce qui est l'intégration de la charge utile, donc les satellites, se fait dans une partie du BAF, le bâtiment d'assemblage dont je vous ai parlé tout à l'heure d'Ariane 5, qui est le hall d'encapsulation qui est commun pour Ariane 5 et pour Ariane 6. Donc on réutilise, donc on fait des gains, et des gains d'exploitation, parce qu'on maîtrise déjà l'exploitation dans ces bâtiments-là. Donc tous ces points, effectivement, de logique de contrôle qui est fait en amont, je dirais, au niveau des pays respectifs, des différents étages qui vont arriver, l'intégration à l'horizontale dans le bal qui permet de gagner donc sur les deux campagnes, donc permettent, et ensuite on aura une cadence de lancement d'Ariane 6 actuellement qui est de 7 par an sur Ariane 5. Nous devons passer à 12 par an sur Ariane 6. Donc tout ça sera permis aussi grâce à ces campagnes de lancement qui seront plus courtes.
Effectivement, un gain énorme. Alors, que reste-t-il à finaliser concernant le ELAA-4?
Donc là, comme je vous disais, donc moi, je suis responsable de la qualification technique des moyens. Donc, on a démarré la qualification technique de tous les moyens sols. Donc, il y a énormément de moyens, entre les moyens mécaniques de transport, les moyens fluides, les moyens... tous les moyens qui servent au fonctionnement de la base. Donc, on a démarré la qualification technique en 2019. Donc, on a déjà qualifié tout l'ensemble des systèmes mécaniques. Donc, tous les moyens qui permettent d'intégrer, d'assembler le lanceur au bal. Donc, tous ces moyens qui sont communs entre le CNES et Ariane Group. Donc, tous les moyens d'assemblage ont été qualifiés, réceptionnés. On a qualifié tous les moyens de transport, donc on a déjà transporté la maquette du lanceur Ariane 6. On a eu une maquette complète sur site, donc tout ça a été qualifié. On a qualifié la partie système fluide, donc toutes les parties fluides qui permettent de transporter l'hydrogène et l'oxygène et tous les autres moyens en hélium et azote qui servent pour les opérations de remplissage des réservoirs du lanceur. Et on est en train de finaliser ce qu'on appelle les dernières parties logicielles, donc des séquences synchronisées de lancement. Et donc, on est dans ces phases de réception et de qualification de ces derniers systèmes. On a qualifié les moyens d'avitaillement, les moyens de pour remplir dans l'étage inférieur, l'étage supérieur, les bras cryos. Donc, on est sur ces phases et donc on rentre dans les phases d'IDC combinées. On a terminé la qualification technique et des moyens séparés. Et là, donc, on fait fonctionner tous ces moyens ensemble. Voilà.
Très bien.
Donc, c'est la phase importante aussi.
Quels ont été les gros défis de ce chantier hors normes ?
Alors, les gros défis de ce chantier hors normes, c'était déjà donc de tenir le budget, donc le budget qui était alloué par l'ESA, hein, donc pour faire ce chantier hors normes. C'était tenir ce budget, donc d'optimiser un peu tout ce qui était dans le fonctionnement entre tous les industriels qui étaient sur site, et donc aussi tous les travaux et toutes les réceptions qui se déroulaient, je dirais, en métropole, mais donc de réceptionner et d'intégrer tous les systèmes sur site. Un des gros challenges aussi, c'est le fameux portique. Le fameux portique qui permet d'enserrer et de couvrir le lanceur. Il faut voir que c'est un portique qui pèse maintenant à peu près aux alentours de 8500 tonnes, donc qui est plus lourd que la tour Eiffel, et qui se déplace sur des bogies, et donc qu'on peut faire reculer de 140 mètres. Donc c'était construire ce portique mobile en parallèle des activités qui se déroulaient sur le génie civil, sur le massif, sur le Carnot. Donc sur les Carnot, donc c'était réalisé. Donc on avait à un moment plus de 7 à 8 grues qui tournaient en parallèle, plus deux grosses grues de 300 tonnes qui permettaient de soulever des morceaux du portique mobile, et tout ça en sécurité, avec un nombre de personnes qui est monté jusqu'à 700 personnes sur le chantier. Donc un des gros défis, c'était de réaliser en toute sécurité, et c'est là où on peut se targuer une certaine fierté, c'est qu'effectivement, donc on n'a pas eu d'accident sur ce chantier. Donc c'était un des buts aussi, et donc d'arriver donc en faisant travailler des entreprises qui venaient de toute l'Europe, et donc sans risque et donc en sécurité. Donc ça, c'était un des gros défis. L'autre gros défi aussi, c'était de gagner du temps, comme je disais, dans l'intégration. Donc, toute l'intégration donc, avait été déjà, je dirais, réalisée en 3D, donc bien avant, quelques années avant. Et donc, on s'est rendu compte, effectivement, lors de l'intégration, que grâce à la 3D, donc, on a pu gagner du temps dans l'intégration de tous les systèmes mécaniques, fluides, donc tout ce qui est énergie, tout ce qui est courant faible, je dirais réseau télécom, pour qu'il n'y ait pas de problème d'intégration dans les bâtiments. Parce que bon, c'est des bâtiments qui sont très chargés en équipement.
Est-ce que vous pouvez nous présenter les bras mécaniques, les bras que l'on appelle les bras cryo-techniques ?
Tout à fait. Donc les bras cryo, donc ce qu'on appelle alors les bras cryo-techniques ou cryogéniques, ce sont les bras qui sont situés donc. Donc, il faut voir au niveau de la zone de lancement, vous avez une table métallique sur laquelle est posé le lanceur. Donc, à 13 mètres du lanceur, vous avez un mât métallique qui monte à 66 mètres. À environ 38 mètres de hauteur, vous avez ces deux bras cryotechniques ou cryogéniques qui permettent à l'alimentation des réservoirs donc de l'étage supérieur en hydrogène et en oxygène. Ces deux bras donc, ont une longueur donc, de 13 mètres. 13 mètres. Chacun pèse à peu près une vingtaine de tonnes. Et donc, ils permettent, via des tuyauteries qui cheminent donc, du massif, qui passent par le mât, et donc qui sortent au niveau des bras, de pouvoir alimenter donc, le lanceur, l'étage supérieur du lanceur, donc en hydrogène et en oxygène lors des dernières phases de chronologie de lancement. Donc, ces bras après, donc en chronologie positive, donc dès qu'on aura commencé à allumer le lanceur, vont s'ouvrir. Donc, l'ouverture des bras, donc ils s'ouvrent, c'est ces bras qui s'ouvrent donc à 90 degrés, ils s'ouvrent donc en 2,5 secondes suite à un ordre qui vient du banc de contrôle, donc qui déclenche l'activation de moyens pyrotechniques qui vont déclencher des contrepoids qui sont sur le côté du mât et qui vont tirer sur les bras et ouvrir les bras automatiquement à très grande vitesse pour pouvoir séparer les bras donc du lanceur et pour le laisser donc pouvoir s'élever sans problème. Donc ces bras, ils sont donc c'est des bras donc en métal, Donc, ils sont équipés de caméras, de systèmes aussi de rinçage qui permet, lors du décollage aussi, d'avoir un rinçage automatique des bras qui se fait lors du décollage. Donc, ces bras ont été qualifiés. Ils ont été qualifiés dans une première partie, donc à Fos-sur-Mer. Et dans une deuxième partie, donc on a fait toute une série d'essais dans différentes configurations. Ils ont été qualifiés techniquement sur la zone de lancement. Donc il y a eu plus de 200 essais complets qui ont été faits entre les bras qui permettent l'alimentation de l'étage supérieur et les moyens d'avitaillement qui permettent l'alimentation de l'étage inférieur du lanceur.
Pour terminer, vous avez récemment réalisé des essais dits combinés. En quoi consistait-il ? Pouvez-vous nous mettre l'importance de ces tests ?
Donc, effectivement, donc, comme je vous disais, on a démarré les phases d'essais combinés. Donc, il y a eu les premiers essais combinés que l'on a fait. Donc, on en a déroulé l'année dernière. C'était les essais combinés liés à l'intégration de la coiffe et de satellites dans la coiffe. Donc, on avait avec une coiffe de vol d'Ariane 6. Donc, au niveau du bâtiment d'assemblage final. Donc, un bâtiment déjà existant sur l'ensemble de lancement numéro 3 d'Ariane 5. Donc, on a fait toutes les phases d'intégration, donc d'encapsulation d'une charge utile avec une fausse charge utile. Mais on a déroulé toutes les procédures. Donc, ça a été déroulé en septembre 2021. Et ensuite, donc, on a continué sur l'essai combiné. Après, donc, avec l'essai combiné où on a validé la circulation d'hydrogène et d'oxygène liquide dans tous les équipements mécaniques qu'on avait installé. Donc, comme je vous disais, toutes les tuyauteries qui ont été installées dans le massif, dans le mât et dans les bras. Donc, on a fait ces phases qui ont été sur 3-4 mois, donc en début d'année 2022, et donc qui nous ont permis de valider toute la partie mécanique avec la circulation de carburant à très basse température. Donc, on a pu s'assurer du fonctionnement du débit. On a pu prendre tout un ensemble de mesures, donc pour vérifier que tous les équipements, toutes les vannes et toutes les vannes du process suite fonctionnaient bien, qu'on était dans les temps par rapport au pilotage, par rapport au banc. Donc ça, c'est toute une série d'essais, je dirais fluides, que l'on a déroulés. Ça nous a permis d'acquérir une confiance complète sur le fonctionnement fluide. Et là, donc, on est prêt, je dirais, à passer à l'étape qui va arriver de remplissage des réservoirs d'une maquette du lanceur. Ça, c'était donc les essais fluides qu'on a déroulés dans le premier semestre 2022. Et on a terminé en début d'été par les essais combinés donc, d'intégration du lanceur, donc du corps central d'Ariane 6 au bal. Donc, on a déroulé toutes les opérations avec Ariane Group. Donc, on a déroulé toute une séquence d'intégration. Donc, on a validé les durées d'opération. Donc, il faut savoir que l'étage inférieur et l'étage supérieur sont raccordés par plus de 300 boulons. Donc, toutes ces opérations ont été validées. Et on a terminé par les opérations et c'est combiné où on a transporté le lanceur du bal sur les 800 mètres jusqu'à la zone de lancement. La verticalisation, donc on verticalise le lanceur via le pont 45 tonnes qui est du portique mobile et on le pose sur la table. Et après, donc, on a fait l'intégration des 4 boosters, donc en configuration Ariane dite à 64 avec les 4 boosters qui permettent de pouvoir lancer 11 tonnes 5 en géostationnaire. On a fait l'intégration donc des 4 boosters sur le corps central. Donc, on a quasiment un lanceur complètement intégré. Donc, c'est une maquette des lanceurs, bien sûr, mais une maquette complète. Et là, il ne nous reste plus les prochains essais combinés qui vont avoir lieu, vont se dérouler en septembre. Ça sera l'intégration de la coiffe. Donc, la coiffe dont je vous ai parlé qui sera posée sur le lanceur. Et on devrait avoir, fin septembre, début octobre, une maquette de lanceur complète sous portique. Et après, donc, les essais combinés qui resteront donc à dérouler concerneront donc le remplissage, tous les essais de remplissage des réservoirs du lanceur.
Impressionnant. Voilà. Plus de 200 tests alors.
Ça c'est au niveau des bras. C'est quand on a qualifié les bras. Quand on a qualifié les bras, il y a énormément de tests qui ont été faits pour bien vérifier le fonctionnement, les durées et la qualification. Donc, ces bras, ces 5 sont éprouvés.
Tous ces tests ont fonctionné jour et nuit, en fait, durant le chantier.
Alors, on a fait, il nous est arrivé effectivement de faire des tests de nuit pour les roulages, pour voir comment se comportaient les roulages des systèmes de nuit, hein, pour voir, parce qu'on sera amené pour certaines chronologies, comme on a eu sur Ariane 5, à faire des activités de nuit. On a fait des essais d'ouverture de bras de nuit aussi pour voir un peu comment ça fonctionnait, notamment avec les systèmes d'éclairage et puis les systèmes de caméra pour avoir une visualisation technique. Bon, après, bon, voilà. Et après, donc, on a prévu effectivement dans les essais combinés de faire des essais combinés de nuit pour faire des remplissages aussi du lanceur, parce qu'on peut avoir, il y a les différences de gradients de température, ça peut influencer aussi sur les températures et lors des remplissages. Donc, on fera aussi des essais de nuit. Tout à fait.
Très bien.